place. Et ce matin, si vous êtes ici à l'Église baptiste de Trois-Rivières, j'ose espérer que vous n'êtes pas ici parce que ben, c'est Noël bientôt, fait qu'il faut venir une fois par année à l'Église. Parce que, bon, ben, tu sais, c'est important de venir un dimanche, même si c'est vacances. J'oserais vous dire ce matin que de venir le 21 de décembre est nécessaire et j'irais même un entraînement préparatoire. Et certainement, vous vous demandez, mais de quoi tu parles? Au cours des prochains jours, tout autour de nous sera là pour avoir du plaisir, mais aussi pour nous distraire de celui qui est au centre du temps des fêtes. Et de, en réalité, pas du temps des fêtes, de Noël. Tout autour de nous est là pour nous distraire. Il y en a encore ce matin qui ont du stress parce que vous n'avez pas encore acheté votre cadeau. Alors demain, après-demain, vous allez faire partie des gens qui sont dans la cohue, des magasins, dans les lignes, dans le stress, dans l'augmentation de l'achalandage. Et on ne pensera pas à Noël, on va passer au cadeau. Il y en a d'autres qui sont stressés parce que vous recevez à Noël, n'est-ce pas? Là, vous êtes dans le mijotage de qu'est-ce qu'on va faire pour manger, dans l'achat de nourriture en gros pour recevoir 10, 15, 20 personnes. Et on va évidemment avoir des gros repas copieux. On va avoir de la misère à bien dormir parce qu'on n'est pas habitué d'avoir l'estomac aussi plein, aussi tard, avec du vin, de la grosse bouffe. Et il y en a quelques-uns qui vont avoir des mauvaises nuits. Vous ne penserez pas à Jésus. Vous allez penser à votre estomac. Hein? Alors, tout autour de nous, dans les prochains jours, va nous faire tout faire pour oublier Jésus. Et ce matin, vous êtes ici pour célébrer Jésus, vous rappeler pourquoi on est là et pour entraîner notre cœur, malgré tous les obstacles qu'on aura au cours de la semaine, à se rappeler pourquoi existe Noël. Ce matin, on s'entraîne nos cœurs à se ne pas oublier, avec tous les chants qu'on a entendus, le sens de Noël. On célèbre la naissance de Jésus. C'est sa fête et cette fête qui a bien voulu être instaurée il y a des centaines d'années pour ne pas oublier et là pour nous cultiver le cœur à ne jamais oublier que notre salut a été construit par Dieu, notre moyen d'être sauvé a été construit par Dieu d'une manière totalement extraordinaire et unique dans l'histoire humaine par une naissance virginale. D'une vierge. Et ce message de Noël, ce message de la naissance de Jésus, est totalement unique dans le monde entier. Il n'y a rien qui s'y compare. On a de quoi être fier et on a de quoi aussi à cultiver nos cœurs pour se rappeler cette bonne vieille histoire. Pour qu'elle ne soit pas une vieille histoire, mais qu'elle soit toujours rajeunie à chaque année. À chaque année, normalement, je prends un temps pour lire, soit dans le texte de Matthieu ou dans le texte de Luc, je repasse dans un temps personnel la nativité pour me repasser. Et cette année, un des textes qui m'a beaucoup résonné, c'est dans Luc chapitre 2, que j'aimerais vous inviter à aller, que je vais beaucoup vous lire, mais raconter aussi, puis parler avec beaucoup de... Ce ne sera pas autant en forme de sermon ce matin que j'aimerais juste vous parler de l'histoire de Jésus. Et d'une une partie en particulier qui m'est beaucoup venue à cœur cette année. Et j'aurais besoin d'eau. Si quelqu'un avait accès aux bouteilles d'eau, là, j'en aurais besoin en passant ce matin. Merci. Et cette année, le texte qui a beaucoup résonné pour moi, c'est dans le chapitre 2. Chapitre 2, évidemment, si vous connaissez bien Luc, vous savez que chapitre 2 parle du tout début de la naissance de Jésus, de cette histoire avec les anges qui sont interpellés. Et c'est intéressant dans Luc, rien ne nous est dit de la royauté, rien ne nous est dit de ces mages. On nous parle des plus humbles, des travailleurs, des bergers qui seront les premiers à être mis au courant de la naissance du roi des rois, de son lieu. Les premiers invités à adorer seront les gens de la bassesse de la société, de simples bergers qui travaillent nuit et jour à s'occuper de leurs troupeaux, qui sont mal vus par la société, des gens qu'on regarde plutôt comme des vagabondeurs qui souvent, quand ils passent sur ton terrain, ils ne te demandent pas la permission, ils peuvent te voler une affaire ou un autre. Ils n'ont pas une bonne réputation, les bergers. C'est pas de classe, c'est pas d'éducation. Et Dieu a vu bon de parler et d'annoncer à des bergers. Ça donne déjà le ton, n'est-ce pas, pour Noël? Hein? Ça donne déjà le ton de toute cette prédication de la nativité qui commence par mettre au courant le plus bas des travailleurs, le plus simple, le moins éduqué, le plus négligé des travailleurs, les bergers qui sont invités à venir adorer Jésus. C'est intéressant parce qu'évidemment, le Seigneur Jésus, le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur, se présente comme le bon berger dans l'Ancien Testament. Hein? Et c'est à des bergers. Et là, ils viennent, et là, il y a la cohorte qui chante. Et on l'a chanté tantôt, hein? Plusieurs de nos chants ici, là, n'étaient pas en train de parler du Père Noël ou des lutins ou toutes sortes d'affaires de même, là. Ils nous racontaient toute l'histoire. C'est pour ça qu'en chantant, là, vous allez avoir ça dans votre tête, ça va vous aider à vous rappeler pendant la semaine le vrai sens. Mais ce qui marque, c'est la suite après. Une rencontre particulière au temple qu'il va y avoir avec Jésus et des personnes âgées. Et on est dans ce chapitre 2. Je vous invite à aller à partir du verset 21 avec moi. Et pour ceux et celles en passant qui ne savent pas s'ils vont être là la semaine prochaine, je vous invite à être là la semaine prochaine parce que non seulement la célébration va être adaptée, mais on aura aussi un invité spécial. Le pasteur Guiteau sera là dimanche prochain pour donner un mot de remerciement à l'Église pour les dons, mais aussi donner des nouvelles du ministère en Haïti. Alors, on est très reconnaissant du pasteur Guiteau qui sera avec nous et je vous invite à être présent pour l'entendre la semaine prochaine. J'aimerais vous lire à partir du verset 21 du chapitre 2, quelques versets avec vous ce matin. Verset 21. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, et voilà la première souffrance de Jésus sur terre, la circoncision. On l'appela le nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Ça nous est dit dans Matthieu, ça nous est dit dans Luc, le chapitre précédent. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié. Il devait être purifié, et c'est au pluriel. Ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré ou littéralement appelé au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petits pigeons. Et juste par ce petit commentaire, on apprend la pauvreté de ce couple de parents. Parce que c'était, dans les options de sacrifice, c'était le plus petit des sacrifices pour les plus pauvres de la société. C'était le minimum. Et là, on apprend déjà l'état de pauvreté de gens du petit peuple à qui appartient ce couple. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, donc le Messie du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit, donc c'est la troisième fois qu'on mentionne l'Esprit ici, et quand les parents et de l'enfant l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras, il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. » Et que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Et le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. On va prier. Père Céleste, on te prie de bénir ta parole ce matin. On relit ce texte pas parce qu'on est religieux, pas parce qu'on veut faire un acte religieux. Seigneur, on est simplement ce matin en train d'éduquer notre âme, de nous rappeler, Seigneur, l'origine de cette fête, en train de rappeler à notre âme dans toute la distraction l'essentiel de cette fête qui est la naissance de Jésus. Seigneur, fais du bien à nos âmes ce matin alors qu'on médite sur l'origine de cette fête, alors qu'on va parler d'une dimension, d'un aspect, de l'identité de Dieu, de l'identité de son Fils, de ces gens qui l'attendent. Des circonstances. Est-ce que tu veux qu'on en apprenne, qu'on en retienne, Seigneur, ce matin? Parle à nos cœurs, on te prie, dans le nom de Jésus. Amen. À la rencontre de Jésus ce matin, à la rencontre de Jésus, où Jésus, dans ses textes, et on va en lire un peu plus, va faire la rencontre de 2 personnes âgées, je dirais même de 3. parce qu'on mentionne au verset 21 Moïse, un autre personne âgée, parce qu'on va parler des parents qui sont très respectueux de la loi de Moïse. Et la loi de Moïse a mentionné 5 fois la loi, la loi, la loi. On voit les parents qui, dès le début du récit, sont des gens soucieux d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Et qui ne le font pas de manière religieuse, mais d'une manière vraiment dévouée à Dieu, les parents de Jésus, ainsi que les autres participants dans cette histoire. Et donc, quand Dieu dévoile son cœur, il dévoile le tien également. La rencontre de Jésus. Jésus rencontre Siméon et Anne. Et on nous apprend sur Siméon une série de descriptions qui nous est donnée sur lui. Un homme pieux, un homme juste. Donc, on reconnaît ici, selon les termes de la Bible, un homme qui aimait Dieu, qui était profondément un craignant Dieu, qui voulait plaire à Dieu et qui, depuis des décennies, attendait le Messie. Et on ne sait pas exactement dans sa vie à quel moment, mais Dieu lui avait révélé par l'Esprit-Saint que contrairement à bien des gens autour de lui, Dieu l'informe que lui verrait le Messie. C'était l'attente des Juifs depuis des années. Mais lui est informé qu'il ne verrait pas la mort avant ce moment-là. La tradition nous dit qu'il aurait 113 ans. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais on comprend que c'est un homme très âgé et qui attend depuis longtemps. Et même, on va dire qu'il était en attente de la consolation d'Israël. Vous savez, les Juifs, à l'époque, il priait, « Seigneur, envoie ta consolation pour Israël. Envoie ta consolation d'Israël. » C'était un terme, une expression équivalent à « envoie le Messie ». Parce que dans l'Ancien Testament, un des termes utilisés pour la venue du Messie dans le livre d'Ésaïe parle de consolation dans ce deuxième moitié du livre d'Ésaïe, chapitre 40 jusqu'à 66. On appelle une grande partie le livre de la consolation. Un mot qui revient régulièrement et dans lequel on retrouve Ésaïe 53, le Messie souffrant qui allait revenir, le Messie qu'on attend. C'est un homme qui attendait Jésus depuis longtemps, mais il ne savait pas la forme, la manière, etc. Mais il attendait et Dieu l'informe par son esprit que lui va avoir le privilège de ne pas mourir avant de voir de ses propres yeux. Quelle grâce de Dieu que Dieu donne à ce Siméon qui, lui, attend, et là, au moment voulu, va être dans une extase de joie, de reconnaissance, de voir Dieu répondre, de voir le privilège qu'il a, et là, va sortir de ses tripes, là, des paroles importantes à souligner du sens de qui est ce Jésus, qui est le Messie. Quand un homme comme lui attend depuis tellement longtemps et prie, il voit l'accomplissement de Dieu qui répond à sa prière, il y a quelque chose qui sort de ses tripes, qui ne peut pas retenir à l'intérieur, d'une joie et d'une prise de reconnaissance et d'adoration de qui le Messie est. Et on mentionne aussi qu'il était dirigé par l'Esprit-Saint. Une série de circonstances, de coïncidences, mais qui sont en fait des dieucidences, va l'amener au même moment que le couple arrive avec l'enfant pour pouvoir se croiser, pour voir ce moment de rencontre qui est orchestré par le divin. Et c'est intéressant, regardez bien au verset 29. Nous, on voit « maître » utilisé ici pour parler de Dieu. Mais en réalité, le mot qui est là se retrouve pas souvent dans le Nouveau Testament. Une dizaine de fois, un nom pour Dieu qui arrive pas souvent, c'est le mot duquel on a un despote, despotesse. Le despote, c'est-à-dire celui qui a l'autorité. Nous, quand on entend le mot despote, c'est négatif. Ah, lui, c'est un despote, là. Tu sais, ça veut dire que c'est un gourou de l'autorité, du contrôle, là. Tu sais, là. Mais le mot à l'origine parle tout simplement de Dieu comme celui qui contrôle tout. Et c'est pas négatif. Mais nous, quand on essaie de contrôler comme Dieu, ça c'est négatif. Amen. On n'aime pas ça, quelqu'un qui essaie de contrôler notre vie comme Dieu, qui agit en despote autour de nous. Mais Dieu est le despote, c'est-à-dire celui qui contrôle tout, le maître de l'univers. Et c'est lui qui orchestre ça. C'est intéressant que la première fois que ce mot-là apparaît dans le Nouveau Testament, c'est là dans le récit de la nativité. Celui qui est au contrôle de tout montre ici son contrôle dans les détails pour le timing du croisement entre cet homme-là, cette personne âgée qui attend Jésus, et la rencontre de Jésus, parce que lui ne peut pas partir tant qu'il n'a pas rencontré le Christ. C'est quelque chose, là. Et ce n'est pas un roi qui va le croiser, qui l'attend. Ce n'est pas un grand gouverneur. Ce n'est pas un grand de ce monde. C'est un homme craignant Dieu, tout simple, une personne âgée qui attend depuis toute sa vie pour ce moment de croisement avant de mourir avec le Messie. C'est spécial. Et donc, ces paroles sont donc très significatives. Et le Seigneur a vu bon de garder les paroles de cet homme-là. Et ce qu'on apprend aussi à travers les versets qui suivent, c'est que Siméon était un homme attaché à la lecture de l'Ancien Testament. Il était fidèle à son assemblée, à la synagogue. Il allait là où les croyants se réunissaient pour cultiver sa foi. On le voit par les mots choisis. Et il avait une connaissance personnelle et pratique des Écritures. Et il attendait avec vaillance le Messie. Et ses parents, également, nous sont décrits dans les mêmes termes. Ses parents obéissent à la loi, viennent au sacrifice le bon moment, la circoncision pour obéir à Dieu, et suivent la loi de Dieu. Et cinq fois dans quelques versets, on parle d'un homme et d'une femme qui ont un souci de montrer leur crainte de l'Éternel par l'obéissance très simple dans la naissance de leur enfant, le moment de pureté de maman, le moment de circoncision. Et là, il amène aussi au temple parce que c'était la coutume aussi d'amener les enfants après la naissance pour être priés dessus, être bénis par un rabbin à Jérusalem. Et on voit ici des parents soucieux. Et tout au long de ce qu'on va lire dans les versets qu'on regarde dans Luc, on voit un homme et une femme, on voit un homme âgé qui s'appelle Siméon, et on va voir aussi Anne bientôt, des gens qui sont imbibés de la parole de Dieu et qui ont un souci. Et on voit dans beaucoup de choix de mots que le livre d'Ésaïe, entre autres, est très important. Ils ont lu la loi de l'Éternel, la loi pour la pratiquer, mais ils ont lu les prophètes aussi qui annoncent le Messie, et on voit leur langage. On voit tout ce qu'ils parlent à propos du Messie lié à des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre d'Ésaïe, de chapitre 40 à 66. Que ce soit la lumière des nations, le parler des nations que le Seigneur a à cœur autant qu'Israël, la manière de parler de lui comme lumière, de parler de consolation, tous ces termes-là qui sont là, on voit que ce sont un homme et une femme, un homme âgé et une femme âgée qui tous sont imprégnés de la lecture de la parole de Dieu. Et parce qu'ils sont imprégnés de la lecture de la parole de Dieu, ils sont soucieux par l'aide de l'Esprit-Saint à simplement la mettre en pratique en toute simplicité, sans prétention. Et c'est peut-être une des premières exhortations que j'aurais pour nous. Soyons des hommes et des femmes, peu importe notre âge, mais des hommes et des femmes du livre. Ces gens qui attendaient étaient imprégnés de la parole de Dieu. C'est ce qui faisait que leur cœur était stimulé et gardé et pas distrait. Tout ce qu'il y a autour de nous pendant les prochains jours va être là pour nous distraire. Plein de bonnes choses, mais aussi après plein de choses distrayantes qui nous font passer à côté de donner des cadeaux et se rappeler que la première fois qu'on s'est donné des cadeaux à Noël, c'était Jésus qui recevait les cadeaux parce que c'est souligné sa naissance, sa royauté, de l'adoration par ces cadeaux-là à l'égard du roi de l'univers qui se manifeste comme un frère à nous, on l'a chanté, sur terre parmi nous pour devenir sauveur, mais ça passe par vivre parmi nous comme un frère. Quelle humilité! Et les premiers cadeaux étaient donnés dans ce contexte-là. Nous, on se le rappelle en se donnant les cadeaux les uns aux autres. Ce n'est pas le but, les cadeaux. On se rappelle les premiers cadeaux. Vous voyez? Mais c'est en lisant les Écritures qu'on se rappelle tout ça. C'est en lisant les Écritures qu'on garde le focus, comme ces deux personnes âgées-là ont gardé le focus toute leur vie. Pour ne pas être distrait, pour entendre la voix de Dieu au bon moment, pour venir au temple au bon moment, pour rencontrer Jésus à la naissance au bon moment. Comment est-ce qu'ils pouvaient garder ce timing-là? Comment ils pouvaient cultiver leur cœur? Ce livre était dans leur maison et il n'était pas poussiéreux sur une étable, sur une étagère. Oui, s'ils avaient ce livre-là à la maison il y a 2000 ans, il était pas mal gros. Il y avait bien des rouleaux. Mais ils avaient la possibilité à toutes les semaines d'aller à la synagogue pour entendre la loi de Dieu être lue et cultiver leur cœur. À ne pas oublier qui je suis, où je m'en vais, qui j'espère, quelle est mon attente, pour pas que les attentes de la vie et tout autour de moi deviennent tellement distrayants que j'en oublie ma raison d'être, j'en oublie mon espoir, j'en oublie le but de ma vie. Et c'est par la lecture des Écritures qu'ils ont gardé le focus. Et je dirais que c'est la première chose qu'on doit retenir ce matin. Maintenant, le cœur et le souci de Dieu apparaissent dans les paroles que va prononcer dans les versets 29 à 32, les paroles de Siméon nous montrent le cœur de Dieu qui est imprégné ici de plusieurs vérités importantes qu'on doit se rappeler et qu'on a chantées aussi dans les paroles des chants qu'on a regardées devant nous. On parle du cœur de Dieu pour le monde, Alors, le salut que Dieu a préparé est une lumière pour éclairer toutes les nations. Fait que c'est pas juste centré sur Israël. Son but était déjà manifesté dans les prophètes, dans la loi. Son intérêt n'était pas juste pour les Juifs. Les Juifs devaient rayonner pour être un témoignage pour toutes les nations. Hein? Abraham était béni pour que toutes les nations, depuis le début, le but de Dieu était que toutes les nations soient atteintes, mais Israël gardait pour lui-même. Israël avait souvent un mauvais témoignage et se ramassait finalement à garder la lumière éteinte chez eux. Et le Seigneur se manifeste ici, « T'es une lumière ». Ésaïe, chapitre 46, 49, sont des textes qui nous parlent de cette lumière-là. Vous savez, quand on est enfant, peut-être il y a des enfants ici qui peuvent s'identifier avec ça. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas ça dormir dans le noir. J'ai toujours dormi avec une veilleuse. Ah, oh, Joël, ces genres-là. Oui, je suis genre-là. Encore aujourd'hui, même mariée, ma femme, elle voulait toujours être dans le noir, je m'habitue. Moi, j'aime ça avoir ma petite veilleuse. Oui, je suis genre-là. Jugez-moi. Il y en a combien qui sont comme moi qui aiment ça avoir la petite veilleuse? Allez-y, là. Assumez-vous ce matin. Regardez ces gens-là, ils aiment les petites veilleuses. Ah, c'est correct, ça. Vous savez pourquoi? On aime les petites veilleuses. C'est parce que s'il fait noir, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, puis on peut s'imaginer plein de choses. Hein? On s'imagine des choses en garde-robe qui viennent plus grosses que nature. On s'imagine quelque chose en dessous du lit. On s'imagine des mouvements. Puis surtout, surtout, quand tu veux te lever la nuit, tu vas aller aux toilettes, bien, s'il fait complètement noir, tu risques de t'enfarger, de frapper un cadre de porte. Genre, tu ne veux pas te blesser la nuit. Tu veux voir où est-ce que tu t'en vas, n'est-ce pas? C'est naturel. Et le Seigneur utilise cette image-là pour nous présenter Jésus. Jésus vient comme lumière du monde. Et contrairement à juste éclairer notre pièce pour voir autour de nous notre environnement et se protéger de se faire mal, la lumière du monde vient éclairer à l'intérieur de nous pour qu'on puisse voir à l'intérieur de nous les dangers de notre cœur qui est pécheur. Et qu'on peut banaliser le péché, qu'on peut faire le mal puis finalement pas l'identifier comme du péché et le minimiser. Et lui vient éclairer notre cœur pour montrer comment on est pécheur et voir notre besoin de lui et notre danger de se diriger vers une perdition éternelle séparée de Dieu si on n'a pas cet éclairage-là qui va nous amener à voir qu'on est pécheur et qu'on a besoin de lui et de lui demander pardon pour nos péchés. Alors, tout comme chacun de nous, quand moi j'étais enfant, on aime avoir une petite veilleuse, on a besoin d'une grosse veilleuse dans notre cœur. Amen? Pour voir l'intérieur. Et il utilise justement, si Dieu veut éclairer pour s'occuper des nations, mais aussi il dit, pas juste ça, il est autre chose. Et le souci de Dieu, c'est qu'il continue d'accomplir ses promesses envers son peuple. Le même salut qui éclaire les nations est aussi une gloire pour Israël, son peuple, une fierté. C'est le peuple de Dieu qui a le Messie, c'est le peuple de Dieu qui a un roi qui avait été choisi et dont son descendant deviendrait le Messie de toutes les nations. Pas juste pour Israël. À l'époque, le oint de l'Éternel, c'était le roi d'Israël. Il était juste pour Israël, le roi d'Israël. Mais l'ultime oint du roi d'Israël serait le oint pour toutes les nations. Il serait le Messie, celui qui sauve pour toutes les langues, pour toutes les épices sur notre steak, pour toutes les couleurs, pour toutes nos variantes, sans exception, sans distinction. Et c'est ce qui rend ceci si extraordinaire. Le souci, le cœur de Dieu n'est pas juste pour Israël. Il est pour toutes les nations. Et il est pour éclairer notre cœur, qu'on puisse pas juste voir l'extérieur pour se protéger et avoir une belle lumière dans notre maison, mais qu'il soit dans notre cœur pour qu'on voit mon besoin à l'intérieur et les dangers d'être pécheur et de pas prendre soin de régler mon problème de pécheur devant Dieu. Ça serait beaucoup plus grave que de ramasser un cadre de porte ou de marcher sur une affaire la nuit dans ma chambre et de me faire mal. Ça serait juste temporaire, ça. Mais le mal qui me guette de ne pas voir l'intérieur de mon cœur peut m'amener à être un pécheur séparé de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est grave, les amis. Ça, c'est grave. Et Jésus vient éclairer les cœurs, pas juste l'extérieur. Et il l'offre à toute langue sans discrimination, toute nation. Sans discrimination. Ça, là, c'est au cœur du souci de Dieu pour l'être humain. Et ici, c'est ce qu'il dit. Je vais vous le relire rapidement. Maintenant, Maître, c'est en paix. Là, j'ai la paix de partir. Jusqu'à temps que j'ai vu ton Messie, je n'étais pas en paix. Puis aucun d'entre nous devrait être en paix de partir sans avoir vu le Messie en premier. Peu importe l'âge qu'on a. Comme tu l'as dit, on reconnaît l'accomplissement. Que tu renvoies ton serviteur. C'est comme ça qu'il est resté focusé. Il est resté tout au long de sa vie un serviteur de Dieu qui attendait le Messie. Et cette attitude de rester serviteur de Dieu lui a permis de garder le focus. Est-ce que ce matin, tu es une servante et un serviteur de Dieu qui cultive son cœur, la mission, qui cultive le cœur de Dieu dans ton cœur pour rester branché sur ce qui te garde sur le bon chemin et pas t'écarter? Car mes yeux ont vu ton salut et tu as préparé la face de tous les peuples, lumière pour la révélation des païens et gloire pour ton peuple. Il n'est pas étonnant ici que le père et la mère étaient étonnés. Dieu est en train de fortifier la foi à travers ces paroles-là prophétiques. Il est en train de fortifier la foi de cet homme et cette femme humble qui viennent d'avoir un bébé, qui ont voyagé, qui ont vu toutes sortes de signes. Ça en fait partie. Il veut fortifier la foi de Joseph et de Marie, parce qu'ils vont vivre toutes sortes de choses pour comprendre l'identité de leur fils. Et le Seigneur fait la même chose pour nous. Il fortifie notre foi en lisant ce texte-là. Il fortifie notre foi en Jésus, notre foi en son identité. Et il continue. Pas seulement ça. À la rencontre de Siméon, Siméon l'est béni. Donc, l'enfant a été béni, là, il est béni. Et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et là, il donne ici des paroles prophétiques. Non seulement il loue Dieu, puis il remercie, « Wow, je suis privilégié, wow, voici le message », mais « Wow, aussi Dieu me donne des paroles pour vous, vous annoncez quelque chose ici. » L'enfant est destiné à la chute et le relèvement. Puis le mot ici utilisé pour la chute, c'est le même mot qu'on utilise la seule autre fois dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand on construit mal les fondations dans Matthieu pour une maison, elle tombe en ruine, hein? Matthieu chapitre 7, c'est le même mot qui est utilisé là. Parler comme une maison qui tombe en ruine par des mauvaises fondations. Il dit destiné pour amener à la ruine, comme une maison qui tombe, et au relèvement de plusieurs. Le mot relèvement, c'est le mot qu'on utilise plus tard dans le livre pour parler de résurrection. Donc, quand tu rencontres Jésus, il y a un des deux. Il y a la ruine qui vient, symbole de jugement aussi, où il y a un relèvement, une résurrection de ton âme. Et il dit après ça en synonyme, devenir un signe de provocation, contradiction. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a de la chicane au sujet de Jésus, que le nom de Jésus est honoré quelque part, puis le nom de Jésus est maudit à quelque part ailleurs. Que pour le nom de Jésus, il y a des gens qui vont être mis en prison cette semaine. Puis pour le nom de Jésus, il y en a qui vont tomber à genoux et qui vont consacrer leur vie à Jésus. Jésus est un nom qui ne peut pas nous laisser indifférents. Le nom de Jésus polarise. Tu acceptes son identité ou tu rejettes son identité. Son message te choque et t'amène la ruine dans ta vie ou son message touche ton cœur, tu te repens et tu vis la résurrection en Jésus-Christ. Mais il polarise. On n'a pas été choqué puis surpris de tout ça. Il nous le dit ici, c'était une prophétie qui annonçait le débat. Et encore aujourd'hui, peut-être, tu n'es pas encore fixé sur qui Jésus va être pour toi. Est-ce que Jésus sera un objet qui amène la ruine dans ta vie parce que tu continues à te tenir, à ne pas vouloir lui céder ta vie et lui donner le contrôle à celui qui est le despote, qui est le maître de l'univers? Et tu te prépares pour la ruine, peut-être parce que tu n'as pas encore abandonné le contrôle à Jésus. Où est-ce que tu as abandonné le contrôle à Jésus? Et Jésus, il est synonyme de résurrection pour toi, d'une nouvelle vie, d'espoir et de résurrection pour l'éternité avec lui. Jésus est ces deux choses-là, aux deux extrêmes. Et c'est normal que Jésus dérange à Noël, même au moment où on célèbre sa fête. Il y en a qui ne veulent pas entendre les chants de Noël qui parlent de Jésus. On aime mieux parler de petit papa Noël qui connaît tout. Mais ça, c'est Dieu qui connaît tout, qui donne des cadeaux. Les petits lutins, de faire des jokes, les beaux petits Noël comme ça. Il n'a pas parlé du Noël. Où ce qu'au premier Noël, on a annoncé que cet homme-là serait dérangeant. Et non seulement ça, pour sa mère. Regardez sa mère. Regardez sa mère, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Elle va vivre un transpercement de l'âme. Hey, Déjà, dans l'histoire de Noël, il y a un précurseur qui nous annonce qu'il va y avoir des moments difficiles qui s'en viennent. Il y a une annonce de des moments difficiles qui s'en viennent pour la vie de celle qui va le porter et que ça ne sera pas toujours rose et facile, la vie de Marie comme mère. Et si vous êtes mère depuis moindrement longtemps, vous savez que la maternité n'est pas toujours facile. La maternité apporte son lot d'épreuves. La maternité, ce n'est pas juste une naissance, c'est aussi nourrir, c'est aussi éduquer, c'est aussi assister à des mauvaises décisions et que ça nous fasse mal. Et des fois, pour certains, même c'est de voir la mort d'un enfant avant même sa propre mort qui est difficile. Et là, non, tu vas voir un glaive, il y a un moment de ta vie où ce que ça va être comme l'épée de Goliath. Le mot utilisé pour glaive ici, c'est cette épée à deux tranchants. Et le même mot qui va être utilisé par les Grecs pour parler de l'épée, justement, de Goliath. Et que ton âme va être picochée de douleur, de tourmentée, de tristesse. Et on comprend plus tard que c'est par le fait de voir son fils crucifié à la croix. Elle sera présente, mais comme une bonne maman, elle persévérera et elle sera là aussi dans la chambre haute pour voir l'Esprit de Dieu venir et de voir son fils ressuscité aussi. Mais elle va passer par là dans son rôle de maternité. Ça fait partie, pas juste des étapes, mais des poids de la maternité et lui dit d'emblée cette annonce qui fait peur. Et vous savez, Marie, on dit dans les versets 19 et 51 du même chapitre qu'elle gardait ces choses-là dans son cœur puis elle réfléchissait à tout ça. Et c'est ce qu'on est invité à faire comme Marie au verset 19 et au verset 51, en voyant tout ce qu'on nous raconte sur Jésus, de collecter toute l'information, de protéger que cette information-là ne parte pas dans tout le distrait qu'on va avoir pendant le temps des fêtes, mais qu'on garde tout ensemble ces informations-là, puis se rappeler, ouais, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'avoir littéralement le mot utilisé, un peu plus loin, c'est un dialogue intérieur pour ne pas perdre de perspective. Qui il est, Jésus? Et qu'est-ce qu'il est pour moi? Puis qu'est-ce qu'il révèle dans mon cœur? Et comment il répond aux besoins de mon cœur d'être purifié de mes péchés? Il est soucieux du cœur, le Seigneur. Soucieux du cœur. Et donc, Jésus sera source de chicane. C'est déjà dit dans une prophétie d'un homme âgé qui s'est présenté au bon moment, qui l'attendait depuis des années, que les circonstances l'amenaient à croiser Jésus avant de mourir. C'était Siméon qui l'a dit, il va y avoir de la chicane sur le nom de Jésus. De quel côté de la chicane est-ce que vous êtes ce matin? On doit se poser la question. Marie va souffrir. Déjà une nouvelle qui nous dit quelque chose de l'avenir de Jésus, dont cette mère va devoir se préparer, que ça fait partie de la maternité. Tu vas vivre un moment de souffrance très particulier, comme un épée de Goliath qui te transperce l'âme à répétition. Ça ne sera pas facile. Tu vas avoir besoin de la grâce de Dieu. Mais persévère. Et Dieu est préoccupé par le cœur humain, et Dieu désire dévoiler le contenu de nos cœurs. Et je vous lis, c'est justement ces dernières paroles, afin que, regardez bien ici dans notre diapo, là, la dernière phrase, « afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées ». Le but de tout ça, ça manifeste le cœur de Dieu pour tous et chacun, mais ça manifeste aussi mon cœur. Et dévoiler, c'est le mot révélé. C'est le même mot qu'on utilise pour parler de l'Apocalypse. Hein? Dieu qui dévoile, qui révèle. Il dit, Dieu veut révéler nos cœurs, qu'on voit nos cœurs, comment ils sont tourmentés, comment ils sont pris avec le péché, esclaves de tous nos désirs, et qu'on a besoin de lui pour éclairer et pour régler notre problème intérieur. Dieu est préoccupé par ton cœur, par nos cœurs. Et l'envoi de Jésus est pour régler ce problème-là. D'être révélé l'état de notre cœur sans lui et révéler que Jésus peut consoler, que Jésus peut faire, comme avec cet homme, donner la paix, que Jésus peut amener le pardon. Et tout ça annoncé dans ces quelques paroles. Mais là, il y a une autre dame à rencontrer aussi. On va lire les versets suivants. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, son nom veut dire grâce. Fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais on sait une chose, c'est qu'elle n'est pas dans la région de la tribu d'Azer présentement. La tribu d'Azer était plus au nord, proche de la Galilée. Cette femme-là s'était exilée depuis longtemps pour être dans cette région-là, pour une raison bien précise. On nous l'annonce après, on résume sa vie en disant elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve depuis ce temps-là, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et ce qu'on apprend de cette femme-là, c'est un modèle ici de pureté, un modèle de patience, vraiment remarquable, cette Anne. Vous savez, Luc, si vous lisez moindrement un peu les évangiles, une petite note ici que je vous donne, Luc va parler de plus de 40 différentes femmes dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc. C'est l'écrivain dans les évangiles qui porte le plus d'attention, non seulement ici, dans le récit du chapitre 1 et 2, du récit de Marie, la perspective de Marie, la perspective d'Élisabeth dans ce qu'ils ont vécu face à la nativité, mais il va parler de beaucoup de femmes qu'on ne retrouvera pas dans les autres évangiles. Luc a un intérêt tout particulier et 3 des 12 veuves mentionnées dans le Nouveau Testament sont dans Luc, dont cette femme-là. Il va mentionner ici, dans Luc, cette femme, hein, qui est la plus généreuse du Nouveau Testament, la veuve, qui donne de son essentiel. Et Luc, dans sa sensibilité comme docteur, montre beaucoup d'intérêt envers ce que les femmes vivent et les rencontres de femmes avec Jésus. Et en partant, c'est lui, contrairement à Matthieu, qui nous rappelle cette rencontre avec cette vieille veuve consacrée, qui toute sa vie, depuis les 7 années après le mariage, est restée fidèle à Dieu, pur à servir Dieu et à attendre son Messie. Et on utilise les mêmes mots que pour, on parlait d'attente. Donc, dans l'espoir un jour de voir le Messie, dans l'attente que le Messie vienne pour régler les problèmes du peuple. Oui, peut-être le peuple avait une mauvaise conception de ce que ferait le Messie, mais il attendait le Messie. Et cette femme-là a attendu toute sa vie. Elle s'est délocalisée de où ce qu'elle était pour être proche du temple, pour être au lieu où ce que viendrait le Messie, pour être là pour servir Dieu, dans le jeûne et la prière, et on va parler du jeûne et de la prière dans la nouvelle année qui s'en vient. C'est quelque chose que Dieu nous amène à rencontrer ces 2 personnes âgées exemplaires de modestie, de pureté, de consécration. Et son espérance, la délivrance. Le dernier verset qu'on va lire ce matin, on va lire ensemble. Regardez avec moi le verset 38. Après avoir parlé de sa consécration, cette femme en âge avancé, on dit, survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu. Au moment où elle les voit, là, où elle voit Jésus, ses parents, qu'elle voit les paroles que peut-être elle a entendues justement de Siméon, elle qui attendait tout ça. Et là, tout à coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à célébrer Dieu. On voit ici par le choix du mot que c'est une cause à effet. De ce qu'elle reçoit de ce moment, elle doit raconter ce qu'elle vit. Parce que si tu rencontres Jésus, si tu réalises que tu as rencontré le Messie, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu ne peux pas ne pas le partager. Tu ne peux pas ne pas chanter et te réjouir et te vanter parce que c'est la chose la plus extraordinaire qu'il peut y avoir, de connaître le Messie. Rien ne peut être équivalent parce que de connaître le Messie permet de régler ma situation devant Dieu pour l'éternité. Tous mes problèmes sont adressés dans la personne du Messie. Et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération d'Israël. Non, la libération de Jérusalem. Et Jérusalem, ici, est utilisé pour la capitale, pour parler de l'ensemble de la nation, certainement. La libération d'Israël. C'est la dernière chose que j'aimerais vous dire avant la conclusion. Et réfléchir, qu'est-ce que c'est cet aspect-là de... Quelle est cette délivrance? Quel est ce rachat de Jérusalem, exactement? Et à la fin du livre de Luc, justement, un des hommes sur le chemin d'Emmaüs va dire ça ici. Il dit, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Donc, c'était des paroles qui viennent de l'Ancien Testament, qui viennent des prophètes, qui viennent en particulier d'Ésaïe. On attend le libérateur ou le rédempteur de Israël. Mais encore, avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que c'est arrivé. On attend, il n'y a pas encore rencontré Jésus ressuscité. C'était l'espérance de ses disciples, mais c'était l'espérance aussi de cette femme qui attendait le rachat de Jérusalem. C'est quoi ça, le rachat de Jérusalem? Quand on attend ce mot-là, on devrait penser à une histoire de l'Ancien Testament. C'est quelle histoire? Hein? L'histoire de Ruth et Boaz. Hein? C'est l'histoire de l'Ancien Testament qui nous illustre toute l'idée de rachat. Parce que l'idée de la délivrance que Jésus offre, bien, le mot signifie rédemption, paiement ou la rançon. Donc, c'est quelque chose qu'on paie pour un esclave ou c'est tu es dans le trouble, tu as perdu ta maison, tu as perdu tout et là, tu as besoin d'un rédempteur, quelqu'un qui peut permettre de restituer ce que tu as perdu, mais qui, humainement pour toi, tu n'es pas en capacité de restituer. Et le rédempteur permet de restituer ta situation perdue. Et dans notre cas, nous sommes tous pécheurs et on a besoin du rédempteur pour restituer notre problème de pécheur devant Dieu qui fait qu'on ne peut pas être avec Dieu pour l'éternité. Et voici ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament. Et non pas le sang de bouc et des veaux, donc pas les sacrifices de l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, le Messie, dans le fond, est entré une fois pour toutes dans les cieux, dans les lieux saints, excusez-moi, ayant obtenu une rédemption, un paiement de rachat qui est éternel. Alors, les paiements de rachat à Boaz, tu sais, puis Ruth, l'histoire, c'est une belle histoire, mais il aurait pu avoir d'autres malheurs après leur vie, hein? C'était pas éternel le rachat du terrain. C'était pas éternel leur relation. Mais il dit, ce que Jésus va faire, lui, va amener une situation qui est éternelle pour ta condition, contrairement à tous les rachats humains qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Un rachat qui est éternel et qui est payé pas par un montant d'argent, par son sang. Un sacrifice à la place de... Et ça, c'est pour toi, mon ami. Peu importe qui t'es. Il répète, c'est l'apôtre Paul qui va en parler un peu plus loin. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de purifier pour lui-même un peuple qui lui appartient en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Il dit dans Pierre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, comme on a acheté le terrain de Boaz, acheté pour récupérer le terrain de Abimélec, qui était l'époux de Naomi, pour que la situation de sa fille de Naomi, qui est Ruth, soit réintégrée dans la communauté d'Israël, que le terrain soit réintégré dans l'héritage de la famille. C'est pas comme ça que vous ayez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc, notre nature pécheresse qui passe de génération en génération. Mais par le sang, et regardez l'adjectif, par le sang précieux, par le sang d'une grande valeur, par le sang inestimable de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. De tous les agneaux de l'Ancien Testament, rien n'était éternel dans ce qui se faisait. Dans tous les agneaux de l'Ancien Testament, rien n'était parfait dans aucun de ces agneaux-là. Mais cet agneau-là fait toute la différence. Et ça, c'est le cœur de la naissance de Jésus. Il vient, après une attente énorme, être le rédempteur d'Israël, être le rédempteur de toutes les nations. Et il peut te sauver si tu n'es pas sauvé ce matin. Avant de terminer ce matin et de finir avec quelques chants spéciaux, j'aimerais vous donner juste quelques observations pratiques aussi à garder pendant le temps de Noël, après avoir regardé le sens de cette révélation que le Seigneur nous donne dans ce récit. Quelques observations pratiques que je tire de ce récit pour nos vies pendant le temps des fêtes, OK? Jésus vient à ta rencontre aussi. Il est venu à la rencontre de cette dame âgée, à la rencontre de cet homme âgé, et il vient à notre rencontre de chacun d'entre nous. Et à travers cette histoire-là, il nous donne quelques applications personnelles. Siméon et Anne rencontrent le Messie, non dans un événement spectaculaire, mais au temple, lors d'un rite ordinaire et hebdomadaire que cet homme et cette femme faisaient en toute simplicité. Ne banalisons pas, vous savez, nos bonnes habitudes ordinaires et les activités routinières. Dieu prend plaisir de nous rencontrer dans la routine et dans l'ordinaire, dans la persévérance que Dieu donne à celui d'être fidèle dans les choses simples de la vie. D'être un bon père, d'être une bonne mère, même quand c'est long puis c'est plate. D'être au travail, honnête, même quand on ne dit pas merci puis que ça peut être plate. De continuer à faire ta routine de choses qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas glorieuses, ordinaires. Vous savez, la grande partie d'Abraham, de sa vie, était ordinaire. On nous raconte les hauts moments aux 10 ans puis 20 ans de ce qui s'est passé dans sa vie. Le reste de sa vie, vous savez, il faisait sa bouffe, il faisait leur ménage, il faisait la discipline avec les enfants, il gérait les chicanes d'ouvriers dans la vie ordinaire. Puis à un moment donné, il arrivait une rencontre avec un ange dans la vie d'Abraham. Mais ce n'était pas le quotidien, ça. Dieu le rencontrait à lui donner la fidélité dans la simplicité du journalier, de l'hebdomadaire. Accueillons Jésus. Accueillons le Messie dans la routine de nos vies. Il n'y a rien de trop simple. Et Dieu veut te rendre fidèle dans les choses les plus simples et petites de ta vie, que personne ne va regarder, mais dans lequel il va être avec toi, conduit par l'Esprit Saint. Deuxièmement, Siméon attendait la consolation d'Israël. Anne persévérait dans le jeûne et la prière pour cultiver sa foi des années de temps, elle aussi dans l'attente de la délivrance de Jérusalem. Leur foi était une foi patiente, mais pas une foi passive, pas une foi qui attendait puis faisait rien assis sur son steak sur un banc à attendre, là. Non, une foi active, en attente, servant humblement jusqu'au bout. Tant que Dieu donne des capacités, elle servait sans compter. Est-ce que tu peux identifier ce matin ce que tu t'attends de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui, comme ces deux personnages âgés, que tu attends, que tu espères depuis longtemps, et que peut-être le Seigneur veut t'encourager ce matin à continuer, ne pas abandonner d'espérer cette demande que tu fais à Dieu depuis des années, puis que dernièrement, tu n'as pas prié. Tu as un peu négligé cette attente-là. Tu es un peu découragé dans ton attente. Et le Seigneur, ce matin, dit, regarde ces deux personnes-là, ils sont comme toi puis moi. Ils attendaient, bon temps, mauvais temps. Et comment ils ont cultivé leur foi? La lecture de l'Ancien Testament, le jeûne, la prière, se rassembler avec d'autres croyants, persévérer à servir le Seigneur et d'être là où Dieu le veut pour garder son cœur centré à cultiver l'attente. Et peut-être ce matin, ton attente est découragée face à quelque chose. Et le Seigneur, ce matin, veut t'encourager dans ton attente. Lâche pas, continue. Comme ces deux personnes âgées nous donnent comme modèle. Colle-toi à la parole de Dieu, à Dieu. Cultive ta foi comme un jardin. Prends-en soin pour être persévérant avec l'aide de Dieu et conduit par son esprit. Troisièmement, le salut se présente sous une forme d'un enfant pauvre, porté par des parents modestes, présenté à des bergers en premier lieu, puis prophétisé et louangé par des aînés qui attendait depuis longtemps. Vous savez, ça dit beaucoup sur le cœur de Dieu, dans la manière dont le Messie est entré dans ce monde. En toute humilité, par la porte en arrière, pas par la grande porte. Rouge, le tapis rouge, et l'accueil, et la gloire, non. Par la porte en arrière, humble, parmi nous, comme un frère. Ça dit beaucoup sur le cœur de Dieu et sur qui il est. Quelle personne ou situation est-ce que tu as du mal à reconnaître qui est porteur de la parole de Dieu dans ta vie, qui est porteur de messages de la part de Dieu, mais que tu regardes parce que tu regardes avec des yeux d'homme. Ce n'est pas une personne importante pour moi. Ce n'est pas une personne que j'estime. Ce n'est pas une personne bien placée. Ce n'est pas une personne très instruite. Puis qu'on regarde les gens comme ça et qu'on minimise la manière dont Dieu peut nous parler à travers toutes sortes de gens, dans des affaires très humbles, par des gens très humbles. Dieu n'a pas ce regard-là, vous savez. Il a marché merveilleux les uns pour parler aux humbles de ce monde. Noël porte une attention particulière aux fragiles et ce qui peut paraître souvent invisible à nos yeux. Et on en retient cette attitude. Deux dernières applications. Siméon et Anne rappellent que la transmission de la foi passe entre autres par la sagesse et la fidélité de nos aînés. Ça, c'est beau, ça. Le Seigneur utilise des aînés jusqu'à leur dernier souffle. Peut-être que tu te sens comme un aîné qui n'a plus grand souffle, qui est essoufflé en montant les escaliers. J'aimerais dire ce matin que le Seigneur veut utiliser celle ou celui qui est essoufflé en montant les escaliers. Tu peux continuer à servir le Seigneur. Dieu veut encore cultiver ton attente. Dieu veut encore tes prières et ton jeûne adaptés à ta capacité pour cultiver ton cœur. Dieu veut encore t'encourager à prendre soin des autres, t'informer, appeler, puis prier pour les autres. Dieu veut t'utiliser dans la mesure que tu peux te déplacer pour te réunir avec les autres parce que la présence de cette personne âgée-là est significative pour lancer un témoignage à la jeune génération que la foi en Jésus-Christ est portée par des hommes et des femmes fidèles qui veulent encore la transmettre à d'autres. Dieu utilise cela. Qu'on puisse entendre le témoignage de nos aînés qui nous inspirent à la foi, mais qui ne sont pas en train de juste passer leur temps à se plaindre sur le fait qu'ils sont aînés. Mais qui sont fiers d'être aînés. fier de tout ce que Dieu a déposé en vous, fier de la persévérance et des histoires que Dieu a eues dans votre vie, puis que vous voulez continuer à les raconter pour inspirer la prochaine génération, pas pour vous plaindre de comment c'est pas facile d'être âgé. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps d'être âgé. Mais c'est pas ça le point. On est dans l'attente et on veut cultiver l'attente et garder le focus et pas se centrer sur soi, centrer sur lui et centrer sur son message autour de nous. Tu n'es pas trop vieux ce matin et Dieu prend plaisir d'utiliser les aînés avec des paroles et un témoignage percutant par la persévérance. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être une personne âgée qui a vu et qui a touché Jésus, comme ce fut le cas de ces deux personnes âgées-là. Jésus nous dit plus tard, dans le livre de Jean, il dit à Thomas, « Heureux ceux qui vont croire, comme tu as vu, en touchant et en sentant, mais encore plus de bonheur à ceux qui vont le faire sans voir, sans toucher. » Ça, c'est vous et moi. Sans voir, sans toucher. On peut être aussi heureux et plus heureux que cet homme et cette femme qui ont touché et qui ont vu Jésus littéralement à croire aujourd'hui. C'est ce que Jésus a dit à Thomas dans le chapitre 20 de Jean, à la toute fin du chapitre. Heureux celui qui croit et qui n'a pas vu comme toi, Thomas. Beaucoup de bonheur. Et finalement, une dernière chose ce matin, et ça inspire justement l'équipe de louange pour venir se replacer avec nous. Deux rencontres au temple ont pour résultat la louange. Les deux termine en étant incapable de ne pas raconter, de ne pas chanter, de ne pas louanger Dieu, de ne pas offrir une parole de prophétie, de ne pas offrir une parole d'encouragement à ce couple qui s'occupe de Jésus pour célébrer Dieu. Voilà pourquoi nous chantons à Noël et que nous rappelons avec joie cette histoire. C'est aussi l'occasion de se rappeler les bénédictions de Dieu pendant le temps des fêtes, dans l'année qu'on l'a passé, de le remercier. Soyons intentionnels pour transformer le repas familial, la célébration de Noël, l'échange de cadeaux par de l'action de grâce consciente, intentionnelle, pour vraiment célébrer Jésus. Vraiment remercier Dieu de la dernière année qu'il nous donne, puisque la célébration de Noël se passe en cette fin d'année. Mais qu'on puisse être de ceux qui sont dans l'annonce, qui sont dans le débordement, qui ne sont pas dans le « je suis obligé de le faire », que je ne suis juste pas capable de ne pas en parler. C'est trop extraordinaire. Je comprends le sens de Noël. Et ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de comprendre le sens de cette fête. Ce matin, est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Ou est-ce que tu es encore entre la ruine? Entre la ruine et la résurrection. Pas encore positionné. Il n'est pas trop tard ce matin pour qu'en 2025, le Noël 2025, soit le jour de ta résurrection, de ta nouvelle naissance avec Jésus. Et j'aimerais t'inviter dans un moment de prière ensemble. Je vous invite à vous lever avec moi. On était assis assis longtemps. Levons-nous, courbons nos têtes. Parlons au Seigneur ce matin avant de terminer dans les chants. Seigneur, on veut te remercier. Merci pour la parole de Dieu qui nous parle, qui nous raconte. Merci qu'elle nous raconte à nouveau chaque année. Et qu'à chaque année, Seigneur, quand on lit l'ensemble du récit, il y a des nouvelles angles, des nouvelles vérités. Il y a un rafraîchissement qui se passe à chaque fois de découvrir différents angles de la naissance de Jésus. Et de ce que j'apprends sur Dieu, de ce que j'apprends sur Jésus, de ce que j'apprends sur les êtres humains, de ce que j'apprends sur mon cœur. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Que Noël ne soit pas une routine, une obligation de repas de famille, une corvée, mais que ce soit vraiment un merveilleux temps de célébration, sincère. Qu'on ait du plaisir, Seigneur, à chanter ces chants comme on l'a fait ce matin. Qu'on ait du plaisir à se rappeler pourquoi on est là. Qu'on ait du plaisir en famille à cause de Jésus. Et Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui écoute à la maison, en direct ou ici dans la salle ou en différé, au cours des prochaines heures, des prochains jours. Ô Père Céleste, je te prie que ma position soit claire. Dans cette controverse, dans cette chicane avec Jésus, est-ce que je suis avec Jésus ou je suis encore contre Jésus? Est-ce que je me suis positionné que j'ai besoin de Jésus ou est-ce que je suis encore en train de m'objecter à Jésus? Il est annoncé il y a 2000 ans qu'il serait un sujet de chicane. Et Seigneur, c'est encore le cas en 2025. Seigneur, je te prie pour ceux et celles que tu appelles à toi. Qu'ils se repentent, qu'ils tombent à genoux, qu'ils reconnaissent leur besoin de toi, Seigneur, et acceptent de te donner leur vie. De t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. C'est ma prière, Seigneur. Bénis ton peuple pendant ce temps. Accorde-nous du plaisir, s'il vous plaît, et conduis-nous par ton esprit. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.